Radio Okapi.
Bonjour à tous, je suis Gisèle Cage et je vous présente cette édition du journal. Voici le principal titre. Progrès et obstacles pour les femmes et les filles. Malgré des avancées significatives dans la lutte contre les stéréotypes et pour l'égalité, des milliards de femmes et des filles restent marginalisées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à l'action en cette journée internationale des femmes. Violence en Ituri, des attaques meurtrières et des incendies des maisons dans les territoires de Djougou. Les miliciens du Zaïre et Codeco sont accusés de ces atrocités, forçant des centaines de personnes à fuir. Marie Moussifou Bouguin, spécialiste du genre à la FAO, analyse les obstacles socioculturels à l'égalité de sexe en RDC. Elle est l'invitée de ce journal. C'est tout pour le titre. D'abord, cette information. Le ministre de la Justice offre une récompense de 5 millions de dollars à quiconque fournira des informations menant à l'arrestation de Corneille Nanga, Bertrand Bissimwa et Sultani Makenga. Selon un communiqué du ministère publié hier vendredi, ces trois individus sont activement recherchés par les autorités congolaises. En outre, le ministre promet une prime de 4 millions de dollars pour toute information permettant de capturer leurs complices en fuite, parmi lesquels Péro Louara et Irenge Baelenge. Le ministère invite toute personne disposant de renseignements à contacter les autorités. Par ailleurs, le ministre annonce l'ouverture le 13 mars des procès contre des officiers supérieurs des forces armées de la RDC accusés d'avoir abandonné leur position face à l'ennemi à Goma et à Bukavu, ainsi que l'interpellation et l'audition de certains hauts cadres du Parti du Peuple pour la Construction et la démocratie PPRD soupçonnée de complicité avec l'AFC M23. À l'occasion de la Journée internationale de la femme ce 8 mars, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé que cette année marque le 13e anniversaire de la conférence historique de Beijing où il a été réaffirmé que le droit des femmes sont des droits humains. Antonio Guterres a souligné dans son discours prononcé hier vendredi à New York que depuis cette conférence, les femmes ont surmonté de nombreux obstacles, brisés des plafonds de verre et transformer nos sociétés. On compte désormais plus de filles scolarisées et davantage de femmes occupant de postes de pouvoir. Pour plus de détails, écoutons Jude Mister Bilanda.
Selon Antonio Guterres, ces avancées obtenues des hautes luttes restent fragiles et sont loin d'être suffisantes. Des abominations séculaires comme la violence, la discrimination et les inégalités économiques continuent d'accabler nos sociétés. Toutes les 10 minutes, une femme est tuée par son partenaire ou un membre de sa famille. 612 millions de femmes et de filles vivent sous la menace des conflits armés dans lesquels, trop souvent, l'on considère que leurs droits peuvent être sacrifiés. Le secrétaire général des Nations Unies constate que moins des deux tiers des femmes dans le monde participent au marché du travail et celles qui les font gagnent beaucoup moins que les hommes. À ce rythme, poursuit-il, il faudrait 130 ans pour mettre fin à l'extrême pauvreté des femmes et des filles. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que les progrès sont réduits à néant. Nous devons riposter, dit Antonio Guterres, qui termine son discours en invitant tout le monde à accélérer les changements et à avancer pour chaque femme, pour chaque fille, pour chacun, partout.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme en RDC, le ministère du genre, de la famille et de l'enfant a annoncé que le thème national est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. À cette occasion, le ministère organise un culte écuménique pour la paix au palais du peuple à Kinshasa, ce samedi de 8h à 13h. Cet événement vise à soutenir les FARDC, les Wazalendo et les victimes de la guerre à l'est du pays. Mais quelles sont les origines de cette journée? Alain Hurung nous en donne un aperçu présenté par Babel Mpongo Massimango.
officialisant 1977 par les Nations Unies et dans la foulée de l'année internationale de la femme 1975, proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU, la Journée internationale des femmes est toutefois apparue dans le contexte des mouvements sociaux au courant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. La Charte des Nations Unies adoptée en 1945 a été le premier instrument international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, l'ONU a contribué à créer un héritage historique et internationalement reconnu des stratégies, de normes, de programmes et d'objectifs destinés à améliorer la condition des femmes dans le monde. Notez que la date de la Journée internationale des femmes est aussi intimement liée à la grève générale et aux manifestations des femmes russes à Petrograd, Saint-Pétersbourg, le 23 février 1917. Le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes fut la Nouvelle-Zélande en 1893. En 1920, pour la première fois dans le monde, la Société égyptienne de médecins défie la tradition en dénonçant les effets délétères des mutilations génitales féminines sur la santé et des femmes.
Au Sud Kivu, la Journée internationale de la femme ne revêt pas son caractère festif habituel. Cette journée survient en pleine période de guerre, plongeant les femmes du Sud Kivu dans une atmosphère de morosité indescriptible. Pour elles, le 8 mars 2025 est un non-événement. Elle appelle la communauté internationale à instaurer la paix à l'est de la RDC pour leur permettre de retrouver le sourire habituel du 8 mars. Christelle Fritti.
À entendre le propos de certaines femmes du Sud Kivu à l'occasion de la journée du 8 mars, le désarroi domine l'espérance. Ces femmes réclament la paix en RDC, le respect de l'intégrité territoriale, ainsi que l'intervention de la communauté internationale pour leur permettre de cultiver, s'aimer et récolter loin de toute inquiétude du moindre bruit de bottes. Celles-ci habitent à Ngouba, dans la commune d'Ibanda à Bukavu.
Que tous les acteurs, les autorités, la communauté internationale interviennent pour que la femme de Bukavu se déplace aisément. Vous savez qu'au moins 3/4 de l'économie de la RDC repose sur la femme congolaise. Nous sommes envahis il y a plus de 30 ans, au su et au vu de la communauté internationale. Nous voulons que cela, cette fois-ci, prenne fin. On en a marre avec la guerre.
On n'a pas l'esprit à la fête. Lorsqu'on est en guerre, s'indigne cette autre femme habitante au quartier Ndendere.
Nous sommes en train de traverser une situation difficile au Sud Kivu. Il n'y a rien à commémorer. On ne fête pas lorsqu'on est en guerre. Nous n'avons pas vraiment l'esprit à la fête ou à faire quoi que ce soit comme programme.
Toujours à propos de la Journée internationale de droit des femmes, cette fois à Goma, dans la province du Nord Kivu, la priorité des femmes ici est la survie de leur famille. Le pagne du 8 mars est loin de leurs préoccupations. Leur principale inquiétude est la sécurité de leur famille et l'approvisionnement alimentaire. Leur panier est-il suffisamment garni pour nourrir les enfants et leur assurer une alimentation équilibrée? Une conseillère familiale exhorte les mères à ne pas se laisser submerger par le complexe lié au repas en cette période de crise. Plus de détails avec Rosalie Zawadi.
Avec seulement 10 000 francs congolais, des petits poissons appelés à Goma Kabuchungu, vous pouvez nourrir votre famille pendant 4 jours, explique cette conseillère familiale. En y ajoutant des arachides et quelques légumes, vous êtes assuré d'offrir une alimentation équilibrée à vos enfants sans dépenser une fortune. Le problème réside dans la perception de ces repas, souvent considérés comme un plat pour les personnes démunies. C'est pourquoi elle appelle les mères des familles à adopter un réalisme nécessaire dans les contextes actuels de Goma.
Tout d'abord, nous allons laisser de côté nos complexes sur les repas. Lorsque nous sommes dans cette dure période où l'essentiel c'est d'être rassasié, chère mère de famille, tu dois prendre le temps pour réfléchir. De combien je dispose cette semaine? C'est là pour ne pas dépenser le peu d'argent que tu peux avoir sur 2 jours. De toutes les façons, c'est auprès de nous que les enfants viennent réclamer lorsqu'ils ont faim, jamais auprès de leur père.
En cette journée internationale des droits des femmes, les femmes de Goma lancent un appel pressant à la paix plus fort que jamais. Elles implorent tous les acteurs impliqués dans la crise de faire preuve d'humanité afin d'abréger cette période des souffrances. Pour clore ce chapitre, Nathalie Kambala-Lousse, directrice de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, pense que malgré les avancées enregistrées sur le plan juridique, la femme congolaise fait face à plusieurs difficultés, ce qui ne lui permet pas de donner le meilleur d'elle-même. Elle est au micro de Jody Daniel Nkachama.
Il y a des avancées par rapport au cadre légal, parce que les lois, tous les jours, il y a des réformes. Dernièrement, c'était les élections. Il y a une loi qui était là, qui favorisait les femmes qui étaient sur les listes électorales. Mais malheureusement, on ne sent pas des mesures d'accompagnement. On ne sent pas des stratégies de mise en œuvre. On a senti que les femmes étaient disponibles, mais les femmes n'ont pas su être sur les listes. Et on a vu, les autres ont mis pratiquement leurs membres proches de la famille, leurs amis sur les listes, pour qu'on dise quand même qu'il y avait des femmes, mais les femmes qui ont mérité, et la plupart, vous avez vu vous-même, les avancées, oui, dans le cadre de loi, mais aujourd'hui, si on veut évaluer les élections de 2006, 2011, 2018, 2023, cette année, les résultats ne sont pas probants par rapport à la participation politique de la femme. Donc ce sont des choses à un certain moment qui nous met parfois dans des difficultés. Je pense qu'il y a des choses qui sont là dans tous les domaines, c'est pas seulement politique. Il y a dans tous les domaines de la vie, même dans la presse.
Comme annoncé dans les titres, en Ituri, 5 personnes ont été tuées, des maisons incendiées et des biens pillés. Les groupes armés Zaïre et Codeco ont sémé la terreur jeudi dans plusieurs localités du territoire de Djougou. Ces attaques ont provoqué le déplacement de nombreux habitants, s'ajoutant aux milliers de déplacés déjà enregistrés dans cette région. La persistance de l'insécurité accentue la vulnérabilité de la population désormais dépourvue de tout. Martial Kizarbia Mungu.
La dernière incursion de ces hommes armés a été déplorée la nuit dernière au quartier Sayo dans la commune rurale de Mungwalu à 85 km au nord de Bunia dans les territoires de Djougou. Un groupe de miliciens de la faction Bon Temple de la Côte d'Eco ont tué 5 personnes dont une femme de 27 ans dans une buvette. Ils ont également emporté des téléphones et une grande somme d'argent des victimes et autres rescapés. Dans la même nuit, des miliciens du groupe armé Zaïre se sont introduits en tirant des coups de feu à Zati dans le groupement Fataki. Selon des sources de sécurité, c'est hors la loi, ont mis les feux sur plusieurs maisons et des produits champêtres. Dans la mi-journée de jeudi, un autre groupe des assaillants de la Côte d'Eco envahit les chantiers miniers artisanal du village Sierre à Belkoz. Ces malfrats venus de leur bastion de Bessé ont ouvert les feux pour disperser tous les orpailleurs qui travaillaient dans ces sites miniers. Un taximène qui s'est rendu vers Mungwalu a été blessé par balle. Bounia Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
L'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tremblin, a réaffirmé le soutien de son pays au peuple congolais et à l'intégrité territoriale de la RDC dans un message publié sur X hier vendredi. Elle a souligné l'engagement du département d'État et de l'ambassade américaine à Kinshasa pour mettre fin au conflit dans l'est du pays. Elle est également revenue sur l'appel du secrétaire d'État américain Rubio en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et du respect des droits de l'homme. Washington plaide pour un retour au processus de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une résolution pacifique du conflit qui ravage l'est de la RDC. L'ambassadrice Lucie a conclu son message en déclarant « Nous restons engagés sur le plan diplomatique. Cela va continuer. Cela ne s'atténuera pas et ne s'arrêtera pas. » 194 cas de paludisme pour 1000 habitants, c'est l'incidence enregistrée en 2024 dans la province du Kwilu. Ces statistiques ont été révélées par le docteur Aimé Yiyi, médecin, chef du programme national de lutte contre le paludisme à Kwilu. Il a partagé ce chiffre lors de la clôture de l'atelier de cadre du secteur de la santé, jeudi au centre Tomboa à Bandundu. Cet atelier porté sur la prochaine campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans 19 de 24 zones de santé de la division provinciale de la santé du Kwilu. Docteur Aimé Yiyi a souligné une augmentation par rapport à la moyenne prévue de 124 cas pour 1000 habitants. Il s'exprime au micro d'Irène Mboma Luzolo.
Jusque-là, nous avons l'incidence, c'est en 194 pour 1000. Normalement, nous devons réduire à 124. Ça, c'est la moyenne du pays. Mais nous sommes en 194 pour 1000. Ça, c'est des données de 2024. Quand nous distribuons les moustiquaires, nous attendons à une réduction de 50% de la morbidité des cas de paludisme et 20% des décès. On doit réduire à ce niveau-là. Mais lorsque nous essayons de voir de 2021 jusqu'à 2024, nous sommes passés seulement l'année 2022 où il y avait une réduction à plus ou moins 124, mais en 2024, nous avons eu une augmentation. On est arrivé à 194 pour 1000 habitants. La grande raison, vous savez que nous sommes dans la province où il y a le phénomène Mombondo qui a désorganisé la partie de Kikongo. C'est même entré à Bagata et ce phénomène a fait que ça puisse influencer sur nos données.
La pêche a repris dans la province du Haut-Katanga depuis le 1er mars après une fermeture de 3 mois dans les territoires des Kasenga. Le chef du service de pêche et élevage a souligné que cette période de fermeture a été bénéfique, permettant notamment l'augmentation du nombre d'espèces halieutiques. Plus de détails avec Thierry Mouambe, joint par Jean Gandou.
Nous avons remarqué la multiplication de certaines espèces. Et aussi, nous avons noté une augmentation de fretins. La production annuelle des poissons commercialisés s'élève à environ 1264 tonnes. Et les différents marchés où les poissons des Kasenga sont exposés, c'est notamment à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, voire même au niveau de Luambo. L'évacuation des poissons dans certains secteurs, en l'occurrence les secteurs Lopula et Kisamamba, ne fait aucun problème. C'est-à-dire, il y a les moyens de navigation qui transportent les poissons jusqu'à Kasenga Centre. Et de Kasenga Centre, les véhicules peuvent prendre du poisson et amener jusqu'à Lubumbashi sans aucun problème. La route, elle est en terre battue et elle est praticable. Par contre, dans d'autres secteurs, on a des petits soucis, surtout pendant la saison pluvieuse. Là, vous avez les secteurs Kafira et aussi les secteurs de Bakunda. Mais après la pluie, le transport est facile.
Actualité internationale.
Une épidémie de rougeole dans le sud-ouest des États-Unis a tué 2 personnes et en a infecté près de 230, selon le dernier chiffre publié vendredi 7 mars, incitant les autorités sanitaires fédérales à émettre un avertissement aux voyageurs et aux professionnels de santé. Le Texas a signalé vendredi 198 cas et le Nouveau-Mexique 30. Chacun de ces deux États a confirmé un décès. Les 2 personnes concernées n'étaient pas vaccinés. Le Centre de prévention et de lutte contre les maladies, principale agence sanitaire fédérale, ont classé ces décès comme liés à la rougeole.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, Marie Moussifou Bouguin, spécialiste nationale en charge du genre à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Elle nous éclaire sur les facteurs socioculturels qui freinent l'égalité de sexe en RDC. Elle encourage notamment les jeunes filles congolaises à poursuivre leurs aspirations avec volonté et détermination. Marie Moussifou Bouguin s'entretient avec Jeff Opela.
Marie Moussifou Bouguin, bonjour.
Bonjour monsieur.
La Congolaise est au centre de toutes les ambitions. Comment comprenez-vous ces thèmes?
Alors, merci beaucoup pour la parole. Je pense que moi je suis friand des mots. Mm-hmm. Et je pense que les mots ont un très très grand pouvoir et une très très grande puissance, il faut les dire ainsi. Il faut commencer par le mot ambition pour moi d'abord. Il faut d'abord comprendre que l'ambition renvoie à l'aspiration. Donc, ce que j'aspire à devenir, ce que j'aspire à faire, ce que j'aimerais faire. Mais moi, je pense que lorsqu'on parle de la Congolaise au centre d'ambition, ça veut dire que cette Congolaise qui est au centre d'ambition, la femme congolaise, bien sûr, et la jeune fille, elle doit aspirer à ce qu'elle veut faire, sans pour autant qu'il y ait de contraintes. Mais aspirer, c'est aspirer, bien sûr. On ne se limite pas seulement à une aspiration, mais il faudra être doté de la volonté. D'abord, de aspirer à la chose que l'homme aimerait bien faire, mais aussi la détermination qui va avec, au fait. Mais moi, je pense que les thèmes tombent à pic parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les femmes congolaises, mais aussi les jeunes filles, puissent aspirer peut-être à être dans l'armée, pourquoi pas, à être juriste, à peut-être médecin, sans pour autant qu'il y ait des stéréotypes ou des clichés au niveau social. Et je pense que cette femme-là, congolaise, elle est réellement au centre des ambitions.
Vous étant spécialiste en charge du genre à la FAO, quels sont les facteurs socioculturels qui peuvent entraver l'égalité de sexe en République démocratique du Congo?
Alors, je pense que lorsqu'on parle d'entraver, pour moi, c'est enrayer, freiner, gêner, rattacher dans une certaine mesure. Mais je pense que aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs socioculturels qui entravent ou qui freinent ou gênent, retiennent les femmes congolaises. Alors, lorsqu'on parle de facteurs socioculturels, ce sont des pesanteurs externes qui font en sorte que dans une certaine mesure, les femmes congolaises ou la jeune fille congolaise ne soit pas en même de pouvoir répondre à la première question, d'en aspirer à ce qu'elle veut. Alors aujourd'hui, je pense que la RDC a des avancées très très significatives parce qu'on a un très très beau cadre normatif. Donc côté loi, je pense qu'on est bien casé.
Bien.
Parce qu'on a tout un arsenal juridique très très bien, en commençant par la loi fondamentale qui est la constitution de la RDC, qui consacre voilà l'égalité de sexe, le droit des femmes. Mais là où le bât blesse, c'est au niveau de l'applicabilité de texte. Alors je crois que c'est là où je pense qu'il faudrait qu'on fasse énormément de travail là-dessus, mais aussi au-delà du fait que nous devons travailler au niveau des textes, mais il faudrait que nous puissions également travailler au niveau de l'être humain lui-même. Parce que je sais que d'aucun l'union qu'aujourd'hui, hein, c'est vrai, vous êtes bien habillés, vous êtes venus ici, mais peut-être qu'en se réveillant les matins, vous n'aviez pas envie de vous habiller. Mais la première des choses qui vous a peut-être empêché de ne pas vous habiller, c'est parce qu'il y a les yeux des gens qui vont me regarder. Alors je pense que les croyances, les us et coutumes, je pense que c'est pesanteur culturel font en sorte que dans une certaine mesure la jeune fille et la femme ou la jeune femme ne soient pas en même de pouvoir aspirer à ce qu'elle veut. Donc je pense que c'est dans une certaine mesure résumé les facteurs socioculturels qui entravent. Il n'y a pas un problème juridique, mais il y a un problème d'homme, il y a un problème au niveau communautaire, il y a un problème de croyance, il y a un problème des us et coutumes.
Parlons un peu de la FAO. Vous êtes chargé du genre à la FAO. Comment ça se passe là-bas? Et puis quelles sont les activités que la FAO prévoir aujourd'hui par rapport au 8 mars?
La très grande et la très très bonne FAO. Je pense qu'on est là, on est un peu les gardiens de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ouais. Combattre la faim, parce que je pense que si tu as faim, Jeff, tu ne pourras pas être là en face de moi en train de parler. Ouais. Hein. Donc c'est parce que tu as bien mangé, tu as l'énergie qu'il faut, tu es arrivé ici. Je pense qu'on fait du très très bon travail là-dessus. Et pour ce qui est de la FAO, nous avons prévu toute une série d'activités pour le mois de mars. On profite également pour le mois de mars de pouvoir faire de petites formations, petit renforcement des capacités auprès des collègues pour toujours rappeler la très très bonne politique que nous avons de l'égalité des sexes au niveau de la maison, donc au niveau de la FAO, mais aussi nous mettons aussi en lumière toutes ces femmes qui font du très très bon boulot. Hein. Chez nous, c'est pas seulement les femmes qu'on voit à l'extérieur, mais ces femmes qui acceptent d'aller dans les zones à risque parce qu'ils doivent quand même changer des vies autour d'elles. Donc je pense que ces femmes-là, on les met en lumière chez nous.
Marie Moussifou Bougain, merci d'avoir répondu à toutes ces questions.
Marie Moussifou Bougain, spécialiste nationale en charge du genre à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, s'est entretenue avec Jeff Opela. Ainsi se termine ce journal sur Radio Capi. À la mise en onde, Billy Landry Betou. Coordination, Jude Bilanda, sous la supervision de Alain Irongo, et à la présentation, Gisèle Cage. Pour suivre votre radio autrement, connectez-vous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux Facebook et X.